Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'un chorégraphe virtuose qui vient du tatami et il aurait tout aussi bien pu devenir, j'en suis sûr, champion olympique de judo, ce sport où il est tant question de la gravité. Ce soir, c'est le destin d'Angelin Preljocage. Entre le kimono et le tulle, voici la 32e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous prends pour des bourriques ?
Oui, ça part.
Ça, c'est un excellent...
Burger Winter is coming.
Gravité, c'est le nom de son nouveau spectacle dansé, une réflexion sur les liens qui régissent le corps et l'attractivité terrestre. Et d'un certain point de vue, c'est également le référent de tout geste sportif. Une reprise de volée acrobatique, un lancer de disque ou un dunk. Au basket, se négocie toujours avec la gravité. Et alors ce soir, pour ausculter ce qui unit le sport et la danse à l'aune de cette gravité, deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, je suis ravi qu'ils soient là. C'est un des grands artistes contemporains, Angelin Preljocage, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu. Et puis à vos côtés, une femme que je connais bien et depuis longtemps, réalisatrice d'un très beau documentaire consacré à la création de ce nouveau spectacle, film intitulé « Danser l'invisible », Florence Plattari, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à toi, Florence. Mais juste avant le chorégraphe virtuose, nous accueillerons le maître du ballet, le Dominique Besnéard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
À l'affiche ce soir.
Eh bien ce soir, c'est la Cléo de 5 à 7, de notre amie Agnès Varda, Corinne Marchand.
Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Au programme ce soir.
Une iranienne sur un ring, Rembrandt sur un ballon, un Marcelo Bielsa is coming.
Absolument, à tout à l'heure, surtout n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec un anniversaire. Ça fait 40 ans ce mois-ci que Mohamed Ali a décroché son troisième et ultime titre de champion du monde de boxe des poids lourds, avril 1979. Un printemps comme une pré-retraite, une victoire avec une tournée d'adieu sur le vieux continent. Ali, la légende, Ali, le mythe, débarque alors en Belgique en 1979. Voici le flashback.
La Belgique est une des escales de la tournée entreprise par l'ancien Cassius Clay à travers l'Europe. En 4 jours, il a séjourné à Londres et à Oslo. C'est Eddy Merckx qui a accueilli à Zaventem un Mohamed Ali assez calme, réservé, plus renfermé que d'habitude, fatigué sans doute, il souriait à peine. On peut pas dire qu'il soit à son poids de forme puisqu'il accuse 113 kilos sur la balance, soit 15 kilos de trop. Mohamed Ali n'était pas seul, son épouse et 5 conseillers et soigneurs l'accompagnaient. Son programme sera chargé en Belgique, publicité oblige, on le présentera aux foules ébahies dans 4 grandes surfaces commerciales et il participera à des dîners. Mais oui, des dîners où le prix du couvert s'élèvera à 1000 francs et plus. Tout se paye, ce n'est pas tous les jours que l'on a un authentique champion du monde comme convive. Ciel, j'allais oublier de vous dire que Mohamed Ali n'offre pas ses services gracieusement. Son escapade sur notre belle terre d'accueil lui rapportera 5 200 000 francs belges. 5 200 000 francs belges pour 48 heures. Un rapide calcul, cela représente un gain de 110 000 francs l'heure. Heures de sommeil comprise. Et Ali, bien sûr, a le sommeil lourd.
Bien, après le cri, voici l'apaisement. Après celui qui pique comme l'abeille, voici le miel d'acacia. Après le ring, voici le bling. C'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie. Hein.
Ce soir, Dominique, c'est une réapparition.
Il a fallu la cérémonie des obsèques d'Agnès Varda au cimetière Montparnasse pour revoir le beau visage de Corinne Marchand. Qu'était-elle devenue ? Elle qui reste à jamais Cléo, arpentant les rues de Paris, passant d'un trottoir à l'autre avec un rien de crispation. Frémissante d'angoisse, palpitante d'émotion, elle incarne avec sincérité et vérité la lumineuse dame blonde du deuxième film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7, tournée sans moyens et sans distributeur.
Mais ensuite, Dominique est un peu plus modeste.
Malheureusement, Corinne Marchand ne retrouve plus par la suite un rôle aussi dense que celui de cette femme qui étreint le présent immédiat avec la peur de son futur proche, le verdict du médecin. De son vrai nom, Denise Marchand, elle développe très tôt des dons pour le dessin et souhaite rapidement intégrer une école de graphisme. Mais ses parents, aux revenus modestes, ne peuvent lui offrir la formation dont elle rêve. Élève du cours d'art dramatique de Robert Vidali, elle y travaille des rôles de tragédie avant de débuter sa carrière artistique comme commère des revues dans les cabarets parisiens. Elle apprend alors à chanter, danser et surtout à vaincre sa timidité.
Et elle croise le cinéma un peu par hasard.
Oui, en 1954, André Unebel, très connu, lui offre des débuts modestes à l'écran dans Cadet Roussel, puis l'engage de nouveau dans Arrêtez le massacre, qui enthousiasme le critique Michel Aubryant de Paris Prest. Je conseillerais volontiers aux producteurs de jeter un coup d'œil sur cette farce des familles. Ils y découvriraient une jeune personne du nom de Corinne Marchand, beauté succulente, taillée sur le patron de Sophia Loren et de Gene Mansfield et promise peut-être à la carrière ébouriffante de ces illustres modèles. J'adore cette critique. Après le battage médiatique de Cléo de 5 à 7 qui fait d'elle une vedette, Corinne refuse un contrat mirobolant de 7 ans que lui propose Carlo Ponti, le mari de Sophia Loren, aux États-Unis. Je n'avais pas l'âme d'une aventurière et j'étais très amoureuse de mon mari.
Et ensuite, sa carrière patine, Dominique.
Corinne Marchand reste souvent cantonnée à des rôles de femme élégante et sophistiquée, comme dans Les Sultans de Jean Delannoy. Elle y joue aux côtés de Gina Lollobrigida, qui lui en fait voir de toutes les couleurs, car elle ne supporte pas la beauté de sa peau, qui prend si bien la lumière. Pas très gentille, la Gina. Corinne Marchand traverse avec talent les univers de nombreux metteurs en scène prestigieux, Juan Antonio Bardem en Espagne, Marco Ferreri en Italie et Georges Cukor à Hollywood. À partir de 1970, elle se contente de second rôle dirigé par des metteurs en scène de premier plan, Jean-Jacques Hano, Claude Lelouch, Patrice Lecomte.
Heureusement, il y a le théâtre.
C'est sur les planches, la quarantaine épanouie, qu'elle nourrit enfin sa carrière, enchaînant pièce après pièce. Elle y joue notamment dans Harold et Maude, aux côtés de Denise Gray, et dans une reprise des Parapluies de Cherbourg, au Théâtre Montparnasse, mise en scène par Raymond Jérôme. Corinne Marchand est également présente à la télévision avec la série très populaire « Une autre vie » de Louis Grospierre en 1971, dont je ne ratais aucun épisode, j'étais adolescent. Elle y incarne une veuve qui reconstruit sa vie malgré les embûches et parvient à devenir avocate. Jacques Prévert disait de Corinne Marchand qu'elle était surprenante car singulièrement simple et tout naturellement vivante. Et vrai, c'est peut-être ces qualités de normalité qui n'ont pas suscité un plus grand désir chez les cinéastes et comme elle le dit elle-même, ne lui ont pas permis de faire une grande carrière.
Eh bien voici Corinne Marchand qui nous parle de son métier.
Plus on fait ce métier, plus c'est difficile, parce que on remet tout en jeu à chaque fois. Ce qui est acquis, finalement, bon, c'est pour vous. Vous vous êtes fortifié dans votre métier, dans votre profession, mais pour les autres, il faut tout recommencer. Il faut toujours se renouveler, aller plus loin. Mais j'ai une grande chance de faire partie de cette profession, parce que lorsqu'on prépare, par exemple, une pièce de théâtre, on ne parle pas de soi, on vit avec des mots intelligents qu'un auteur vous a proposés. On est quand même dans une autre sphère, on plane un petit peu. Et moi j'ai toujours dit que tant qu'il existera un poète sur Terre, la Terre sera sauvée, mais je crois que c'est vrai.
Corinne Marchand, héroïne de Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, Dominique.
Alors c'est vrai que d'être trop modeste est peut-être un frein pour devenir une star.
On ne sait pas, peut-être en effet. Merci Dominique Besnéard, à la semaine prochaine, voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Connaissez-vous Beran, au Monténégro? Jusqu'en 1992, cette ville s'appelait Ivangrad, en hommage à Ivan Milutinovic, mort en 1944 et membre des partisans de Tito durant la Seconde Guerre mondiale. Béran, c'est un bout de l'histoire européenne du XXe siècle. Et c'est là, à Béran, qu'on trouve aussi les racines familiales albanophones d'Angelin Preljocage, chorégraphe français, virtuose, directeur de son propre ballet à Aix-en-Provence, au Pavillon Noir, endroit majestueux où danseuses et danseurs sont au carrefour de l'art et du sport.
On donne tous le meilleur de nous tous les jours en permanence. Et en fait, on peut perdre énormément d'énergie à refaire une partie en boucle. Par exemple, tout à l'heure, on a fait les fractionnés 5 ou 6 fois d'affilée. Et là, vraiment, à la fin, on était lessivés. Et du coup, c'est des journées où on bouge et on brûle énormément de calories et d'énergie en permanence et qui s'enchaînent sans pause, en fait.
Moi, ce que j'aime d'Angelin, c'est l'animalité qui le dépasse. Moi, j'ai des moments de création en tête avec Angelin au studio. Mais il était, mais j'étais là, vas-y, il y a un truc de... C'est magnifique à ressentir.
Tac, 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 on enchaîne la suite.
On enlève ça ?
Ouais.
C'est à fond tout le temps. J'adorais, je n'en pouvais plus. Un peu comme un sprinter, mais à qui on dirait, bon là, hein, t'es bien au courant, tu c'est le sprint de 3000 mètres. Hein.
Un sprint de 3000 mètres. Angelin Preljocage, vous êtes aujourd'hui un des plus grands chorégraphes au monde, ça on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est que peut-être un jour, vous auriez pu devenir un grand champion de judo. Qu'est-ce qui fait, Angelin, dans la vie, qu'on choisit plutôt la danse que la voie de la souplesse ou le judo?
Ben, j'aimais bien le judo, mais il y a eu un moment... Enfin, j'ai mené de front les deux pendant une période, et puis à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je choisisse, parce que musculairement, il y avait des choses qui travaillaient un peu à contresens.
C'était ambivalent, c'est ça?
Oui, disons qu'il y avait des choses où je devais travailler dans la longueur du mouvement. Et puis au judo, par exemple, il fallait raccourcir le mouvement pour gagner en efficacité, en vitesse, en puissance. Et la danse était quelque chose qui se déploie dans l'espace aussi. La danse est là pour inséminer l'espace. Donc il faut vraiment essayer d'être vraiment de prolonger tous ces membres, toutes ces articulations. Et à un moment, je me suis dit, ben, c'est la danse en fait.
Et est-ce que vous auriez aimé devenir un grand champion de judo ou pas tant que ça?
Mais j'ai fait un peu de compétition et j'aimais beaucoup ça. Mm-hmm. Vraiment, j'étais vraiment mordu. Mais je crois que depuis l'enfance, il y avait une part en moi qui était liée à la création, à la créativité. Alors évidemment, on dit souvent que les sportifs sont créatifs. Hein. On dit oh, c'est un artiste, voilà, dans son shoot, voilà. Et c'est sûrement vrai, c'est-à-dire cette espèce d'instinct mélangé d'acuité, voilà, qui fait que tout à coup il y a un mouvement parfait, qui est une invention pure. Mais je pensais plus à la création au sens artistique du terme. Oui.
Florence Plataré, on va se tutoyer parce que je te connais depuis longtemps, donc on va pas faire semblant, mais je tutoie les gens que je connais à l'antenne. Tu as réalisé un très beau documentaire consacré à la création justement d'Angelin. Moi, c'est Danser l'invisible, voilà, ça c'est le titre du film. Moi, ce qui m'a choqué, entre autres, pas choqué, mais choqué au sens choc image dans ce film, c'est de voir à quel point il y a des artistes avec Angelin, des danseuses et des danseurs. Mais ce sont aussi des corps d'athlètes, ce sont des athlètes de haut niveau. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ?
Alors, c'est tout à fait les deux en même temps. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment des sportifs de haut niveau. Il faut imaginer ce qu'est la journée d'un danseur. En période de création, il commence par une heure de cours. Ensuite, il y a 2 sessions de 3 heures de travail, de création, avec Angelin ou ses assistants en studio. Ça, c'est en rythme de croisière. Et puis, quand la première du spectacle se rapproche, on rajoute à cette journée, qui a déjà entre 6 et 7 heures de danse, les filages, c'est-à-dire les répétitions du spectacle dans sa continuité et dans son intégralité. Donc voilà, déjà, il faut imaginer cette journée-là. Et une création, c'est pas seulement danser, c'est déjà un engagement physique énorme, mais c'est aussi un engagement intellectuel, psychologique, émotionnel, esthétique. C'est-à-dire que pour les danseurs, il faut comprendre ce que Angelin, vers où il va, ce qu'il essaie de leur faire faire. Il y a vraiment de leur part un travail créatif qui mobilise en fait tout ça. Donc Je crois qu'ils sont surentraînés physiquement, mais voilà, je les ai vus aussi dans des états de fatigue, oui, parfois.
Parfois, ça surgit dans le film.
De découragement ou d'interrogation, d'incompréhension, voilà. Mais ça fait partie de la. C'est un travail de recherche et c'est un travail de recherche qui prend corps et âme.
Angelin, est-ce que vous considérez ces artistes, qui sont d'ailleurs les vecteurs de votre création, comme des athlètes de haut niveau? Parce qu'à la fois, quand on les voit travailler, il y a à la fois de la virtuosité, la performance, la technique, ce qu'on peut attendre d'un sportif de très haut niveau. Vous en pensez quoi, ça, Angelin?
Ben, y a ça, mais avec la danse, il y a encore autre chose. Il y a la relation à l'autre, il y a la relation à l'espace, il y a la relation à la musique, il y a la relation au poids, à l'énergie, à la vitesse. Voilà, donc c'est beaucoup de paramètres qui sont qui deviennent presque inconscients chez le danseur, hein. Mais si on analysait vraiment tout ce qui se passe au niveau du système nerveux, au niveau du regard, au niveau du corps, au niveau des muscles, des tendons, etc., c'est hallucinant ce que fait ce corps du danseur, hein. Et moi, c'est quelque chose qui me bouleverse et c'est ça qui me donne cette passion invétéré de la danse et de cet art. Je trouve que c'est inouï parce que c'est un des rares arts dont l'instrument principal est le corps. Or, on a tous un corps. Et c'est pour ça que je pense que c'est un art vraiment universel parce que il parle à tout le monde, au-delà des générations, au-delà des cultures, des civilisations, au-delà des, même socialement, ça transcende tout ça. Et quand les gens sont dans la salle, en fait, c'est un corps. Enfin, le public, c'est un corps de corps qui regarde des corps. C'est quand même, oui, incroyable, oui, cette espèce de potentiel de connexion, je dirais, télépathique presque, qu'il peut y avoir dans un spectacle de danse.
Quand j'ai vu le film de Florence, j'ai pensé à un genre qui est très à la mode dans le sport depuis 20 ans, qui est, on va dire, la coulisse sportive. Hein, les yeux dans les bleus, par exemple. Dire qu'on a un créateur, une équipe, un objectif. Ce que vous faites dans le film, il y a le créateur Brecht Lecage, une équipe de sportifs artistes, et puis il faut créer un spectacle. Et c'est vrai que dans ces films-là, il y a toujours un second, un lieutenant. Hein. Si on prend Deschamps, il y a Guy Stéphane. Et il y a quelqu'un chez vous qui est passionnant, qui est Dany Lévesque. Ouais. Qu'est-ce que fait cette femme près de vous depuis 25 ans? Elle a un rôle incroyable. C'est comme si elle notait finalement vos visions de jeu et vos tactiques. Qui est Dany Lévesque, enfin, après, je le dis.
Dany Lévesque est choréologue, c'est-à-dire qu'elle est en charge de noter la partition finale du ballet qui restera comme une sorte de référence sur laquelle on revient. Même 5 ans, 10 ans ou 20 ans après, quand on veut remonter un ballet.
C'est faire trace, c'est faire œuvre de mémoire.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Et comme en musique, quand on reprend une partition d'une sonate de Beethoven, ben les notes sont là, tout est là. Donc l'espace est libre pour l'interprète. C'est-à-dire qu'il y a la structure, c'est comme une maison à habiter. Donc vous avez les murs et tout ça, mais vous, à l'intérieur, vous le décorez, vous l'habitez comme vous voulez. Et je crois que c'est ça qui donne aussi la liberté à l'interprète. Vous savez, quand j'étais jeune danseur, j'étais souvent très choqué parce que quand il y avait une reprise d'un ballet du répertoire, on me montrait une vidéo, on me disait « Tu vois le gars en rouge là, ben, tu fais tout comme lui ». Et donc là, j'étais assez atterré parce que je me disais « Mais où commence la chorégraphie ? Où commence l'interprétation ? Enfin, où s'arrête la chorégraphie et où commence l'interprétation ? Et inversement. » Donc, j'avais pas vraiment de place. Ça veut dire que tout à coup, on est extrêmement perturbé. Alors qu'avec la notation, en fait, on vous apprend un mouvement. On vous apprend pas quelqu'un qui fait le mouvement.
Oui, c'est une technique.
Voilà, aussi. C'est comme si on vous dit « Vous jouez fa dièse, mi bémol, voilà, etc. » Donc, vous jouez fa dièse, mi bémol, mais vous pouvez le jouer comme vous le ressentez. Et l'histoire de l'art est faite de ça. C'est-à-dire que c'est des interprètes qui rajoutent des strates différentes à chaque fois, en contrepoint, en opposition, en connexion avec les autres interprètes, et qui fait que l'œuvre devient un millefeuille extrêmement riche. Et c'est ça que je crois manque un petit peu à la danse et que, à ma manière, j'essaye de combler, en fait.
Florence, dans ces films dont je parlais, là, de coulisses sportives, on aperçoit souvent le coach ou le créateur en phase de doute. Hein. Par exemple, dans le film là, de la Coupe du Monde 2018, on voit Deschamps, pendant le processus, avoir des doutes sur son schéma de jeu. Et là, il surgit aussi des doutes chez Angelin, parfois, qu'il a accepté qu'on puisse filmer, d'ailleurs, que c'est très, très beau. Est-ce que tu as pensé à ça, à ce doute qu'on filme ?
le doute appartient autant au sport qu'à l'art finalement, parce que le créateur en ce moment-là, il se dit mais je sais où je veux aller, mais le chemin n'est pas simple. Alors je réfléchis, et ça m'a fait penser à ces grands coachs sportifs qui cherchent finalement la meilleure partition possible avec 11 joueurs sur un terrain.
Oui, je crois que il y avait des moments dans le travail de création où Angelin, il avait une sorte comme une tactique à mettre en œuvre. Je crois que c'est, alors il prend l'image du Rubik's Cube, hein, qui est voilà une matière chorégraphique, parce qu'il faut savoir que cette pièce Gravité ne repose sur aucun récit. C'est pas, il y a pas une histoire préétablie, il y a pas une musique définie à l'avance, il y a aucun artifice.
On part de c'est rien de à peu près.
On part de rien.
C'est vraiment d'un mot, la gravité.
On part de l'idée de gravité. C'est une sorte de petite étincelle qui allume la mèche dans le processus de création, mais c'est pas plus que ça. Et donc il y a une matière qui s'accumule, et à un moment il faut assembler cette matière-là. Il faut trouver un ordre, il faut faire des enchaînements, le faire fonctionner. Et là, ça devient, c'est le moment où je crois, moi, j'ai vu Angelin le plus perdu dans sa tactique, parce que voilà, c'est une partie peut être suivie par une autre qui donne quelque chose, mais un autre enchaînement est possible et ça donne autre chose. Et c'est un peu des combinaisons à l'infini. Et lui, son travail, sa mission, c'est de trancher là-dedans. Et évidemment que j'imagine, on n'est pas sûr que ce soit la bonne décision toujours.
Angelin, en voyant ce film, hein, donc qui parle de la gravité, c'est là où j'ai eu l'idée de vous inviter, parce que je me suis dit, mais en fait, la gravité, oui, on peut en faire un spectacle dansé, mais la gravité, c'est le référent du sport. C'est-à-dire que chaque sportif doit négocier dans son geste et sa prouesse son rapport à la gravité. Je l'ai évoqué en introduction, mais une reprise de volée acrobatique de Cristiano Ronaldo, il joue avec la gravité. Un dunk au basket, on joue avec la gravité. Et je me suis dit qu'en fait, c'était quand même très très lié à la performance sportive, cette thématique que vous avez voulu aborder.
Oui, oui, c'est vrai. Je crois que, en fait, on peut aller même plus loin. C'est que tout être humain, dès sa naissance, est confronté à la gravité. Donc, un petit enfant, un bébé qui essaye de se lever péniblement sur ses deux jambes, qui cherche son équilibre, voilà, il comprend inconsciemment à quoi il va être affronté toute sa vie, c'est-à-dire cette espèce de force qui l'attire toujours vers le sol et contre lequel il doit lutter pour se redresser, pour aller vers les autres, pour voilà. Et en même temps, c'est très beau. Et en même temps, c'est cette gravité qui nous permet un tas de choses aussi. C'est-à-dire, faut pas croire que c'est juste un obstacle. C'est une force. Je le dis, la gravité est une force. Donc, je le dis souvent aux danseurs.
Je pensais aussi au judo, Angelin, parce qu'en fait, c'est quand même le sport de la gravité, le judo. Et je me disais, qu'est-ce que vous devez au judo dans ce spectacle?
Bon, alors, moi, je dois beaucoup au judo. D'abord, dans ma vie, je dirais, dans ma façon d'être avec les autres, c'est que le judo, c'est la voie de la souplesse, comme vous l'avez dit plus tôt. C'est un art qui est très, d'abord, qui est absolument pacifiste, en fait. C'est un art de défense, c'est pas un art d'attaque. Et en fait, on essaye toujours de comprendre qui est l'autre et d'utiliser son énergie, en fait, pour apaiser les choses, en fait. Donc, en fait, pour le mettre au sol, pour le neutraliser, mais dans le sens de faire arrêter cette agression, par exemple. Alors ça, évidemment, ça demande une connaissance quand on pratique le judo et qui se développe en vous de connaître le corps de l'autre, de comprendre comment l'absorber, comment le prendre en charge, comment le déséquilibrer, trouver son point d'équilibre, et ça, pour la danse, je m'en suis rendu compte un peu tardivement, mais c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ce qu'on appelle les pas deux ou les duos, en fait, parce que j'ai toujours inventé des portées ou des mouvements ensemble tout à fait particulier, mais qui en fait viennent du judo, c'est-à-dire mettre quelqu'un en équilibre sur sa hanche, voilà, finalement c'est le judo, mais ça peut devenir de la danse, quoi.
18h34 sur Inter, on va continuer à parler de sport et de danse, c'est l'heure de l'orchestre pour l'instant. On est ce soir par Clara Luciani, le titre joué nu, ainsi soit-il, come on.
Je rêve, pense-moi pour voir, j'avoue j'ai du mal. J'ai du mal à le croire, c'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement seule? celle dont j'ai l'air. Souvent je change.
C'est le premier chorégraphe avec qui j'ai travaillé de la danse contemporaine.
Philippe Collin.
En danse classique, on est toujours dans l'élévation, on essaie toujours de se monter, d'être très gracieux, d'être au-dessus du sol presque. Et Angelin, c'est quelqu'un qui est dans les appuis, dans les pliés profonds. Et ça, j'ai découvert ça et j'ai adoré ça. Il y avait quelque chose de masculin qui me plaisait.
Il vient du judo, il vient du sport, Angelin.
Il a une formation de judoka. Moi, ça m'étonne pas.
Sur France Inter.
Après le jocage, chorégraphe formé au tatami. Au judo, on absorbe, puis on repousse le corps de l'autre. Déjà, le geste d'une danse. Après le jocage, danseur en kimono, sport qui joue sur le point de gravité du partenaire. Et comme le chante Christophe, les plus belles choses au fond restent toujours en suspension. C'est peut-être la matrice d'Angelin après le jocage. Avec une question, que ferait-il lui si on lui confie la mise en scène d'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Le 14 juillet 1989, la Révolution a 200 ans, Philippe Découfflet en a 27. Il est inconnu, mais pour la première fois, le grand public, massé sur les Champs-Élysées, découvre ses facéties chorégraphiques. Aux côtés de Jean-Paul Goude, le jeune Découfflet est chargé de mettre au point une partie du défilé retransmis en Mondovision. Deux ans et demi plus tard, Découfflet frappe à nouveau. Les organisateurs des Jeux d'Albertville cherchaient d'urgence un maître d'œuvre pour la cérémonie d'ouverture en remplacement de Jean-Jacques Annaud, jugé trop cher. Découfflet accepte, s'installe pendant 6 mois dans un 3 pièces cuisine d'Albertville et dirige depuis son vélo une armée mexicano-savoyarde de 3000 danseurs, patineurs, jongleurs, chasseurs alpins, échassiers et accordéonistes. Découfflet veut à tout prix éviter le classicisme soporifique des cérémonies officielles avec danse folklorique, poignée de main et échange de fanions. Les téléspectateurs du monde entier découvrent donc à Albertville l'olympisme revu et corrigé par Tex Avery. Les diablotins côtoient les hommes volants, Rossini rencontre les tambours du Bronx. Derrière ces rencontres, il y a l'alchimiste Découfflet, mime, clown, danseur, chorégraphe et acrobate.
Angelin Plongeage, qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ce moment-là, d'Albertville 92 et de cette cérémonie d'ouverture qui a marqué la mémoire des gens? Tout le monde se souvient de ce spectacle dégonflé.
D'abord, Philippe, c'est un des chorégraphes avec qui on a émergé. Enfin, on est de la même vague, je dirais. Donc, c'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et c'est vrai que ça a été un choc pour tout le monde. Et cette inventivité, et ça montrait aussi qu'est-ce que c'est que la danse contemporaine. Je crois qu'il a beaucoup participé à la popularisation de la danse contemporaine. Mmh. Et rien que pour ça, il faut lui tirer nos chapeaux.
Absolument. Florence, c'est intéressant parce que cette cérémonie des Jeux d'ouverture des Jeux Olympiques, elle est souvent l'occurrence d'une grande messe de danse avec une audience mondiale. C'est devenu un rendez-vous. Alors la danse n'est pas encore une discipline olympique, on va en parler dans quelques instants, mais la danse a toujours été présente finalement, enfin depuis un bon bout de temps, dans les cérémonies des Jeux Olympiques.
Bah, c'est intéressant parce qu'elle est présente aujourd'hui, elle est incontournable. Mm-hmm. C'est des très grands chorégraphes qui, chaque cérémonie d'ouverture ou de clôture mettent en scène ces grands divertissements planétaires. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça date des années 70, en fait. Vraiment, la présence de la danse dans les cérémonies. La danse était un peu reléguée toujours au second plan. Ce qui est assez étonnant parce que à l'origine, dans la philosophie de Coubertin, l'art avait toute sa place. On remettait des médailles artistiques jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais la danse avait été un peu toujours secondaire, ce qui est un peu étonnant. En 36, il y avait eu une tentative, et puis finalement, au dernier moment, le régime s'est ravisé sur la présence de la danse. Et voilà, et ça correspond avec, évidemment, l'émergence de la télévision, des grands spectacles, comme ça. Et donc, voilà, c'est finalement assez récent. Et ce que je trouve très intéressant, en tout cas dans le tournant marqué par Philippe de Coufflet, c'est que, en fait, la cérémonie d'ouverture, c'est à la fois marqué par l'universalisme, donc évidemment, Angelin en parlait, la danse est un vecteur génial pour parler à tout le monde, mais c'est aussi une vitrine nationale. Et en 92, ça fait à peu près 10 ans que la nouvelle danse française dont Angelin fait partie, cette génération de chorégraphes, est soutenue, promue, dotée d'institutions, et je crois que c'est quand même l'idée de que la danse et la France ont un destin commun. Moi, c'est ça que j'aime dans cette cérémonie. C'est en plus, elle est très belle.
C'était un choc pour tout le monde.
Total, qui met en jeu énormément de choses. Mais moi, ce que je retiens, c'est ça. C'est quand même que ça faisait 10 ans et c'était l'occasion aussi de montrer l'état de la recherche chorégraphique française et de la montrer au monde.
Angelin arrive à Paris des Jeux Olympiques en 2024. Il y a une rumeur qui dit que... Non, je sais pas. Est-ce que ça vous intéresserait de récupérer la mise en scène de cette cérémonie d'ouverture à Paris?
Je sais pas. Moi, je suis ouvert à tout. Il y a plein de choses qui tout projet qui peut me... qui me déroute m'intéresse. Là, en ce moment, je travaille avec des femmes détenues à la prison des Baumettes. Il y a toujours quand il y a des défis à prendre, j'aime bien me poser les questions de...
En tout cas, nous, on aimerait voir Angelin Préjocage mettre en scène une cérémonie à Paris 2024. Ça nous ferait plaisir. Moi, je peux le dire, par exemple. Je m'engage pour vous, voyez. Dans le film que Florence vous consacre, Angelin, on apprend, c'est aussi votre parcours, et on apprend qu'au début des années 80, vous étiez un jeune danseur à New York, élève de Merce Cunningham, immense chorégraphe, et vous racontez que vous avez vu naître dans la rue le breakdance, la danse du hip-hop. Et voilà qu'on a appris il y a quelques semaines que cette breakdance allait sans doute devenir une discipline olympique à Paris en 2024. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que ça vous agace?
Je dirais que ça m'est un peu égal, mais après, il faut demander peut-être aux gens qui font, qui sont justement les acteurs principaux de cette danse, qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, je trouverais ça très bizarre, par exemple, que la danse contemporaine devienne une discipline olympique. Enfin, je trouverais ça inconcevable, quoi.
Pour quelle raison?
Justement, l'art, c'est pas non plus la compétition. Mm-hmm. Hein. On n'imagine pas
Le Festival de Cannes, c'est une compétition.
Cézanne en compétition avec Monet, voilà.
Non, vous avez raison, mais Cannes, par exemple, on met Godard à côté de Coppola et on dit qui est le meilleur.
Oui, non, mais on attribue des prix. Oui. On met pas les gens. Enfin, bien sûr, on les met en compétition, mais c'est virtuel. Hein. Oui. Ils se battent pas. Ils font leur film pas en regard d'un, pas contre un autre film. En sport, en fait, on a un adversaire.
Oui, c'est vrai.
C'est un adversaire, ou bien c'est une limite à atteindre ou quelque chose. Voilà. Mmh. Là, mais quand on est dans l'art, on n'essaye pas d'abattre Monet ou de mettre Pissarro au fond du trou et être meilleur que lui. On travaille avec son œuvre, en fait, et on est en fait, son seul ennemi, c'est soi-même quand on fait de l'art. Et donc, voilà, il faudrait faire des championnats du monde de moi contre moi.
Florence, un mot sur cette éventualité du breakdance en discipline olympique?
Oui, moi je trouve ça, j'attends de voir, je trouve ça intéressant. La compétition, ou en tout cas le duel, de toute façon elle est déjà présente dans l'idée de battle. Donc là évidemment, oui, la danse qui rentre, c'est déjà une danse de compétition,
c'est vrai, c'est
en
vrai.
Soi, même si évidemment l'idée n'est pas d'écraser l'autre, mais de mesurer, voilà, sa puissance, son inventivité, sa créativité. Il y a évidemment une démarche artistique. Donc je sais que cette décision fait pas l'unanimité chez les B-boys et B-girls, mais
tout le monde n'est pas content.
Mais non, parce que ça peut aussi être la réduction, on va dire, d'une danse à son côté performance physique. Et à l'idée de compétition, alors qu'elle dit bien autre chose.
Et surtout, je crois que beaucoup d'artistes du hip-hop, en fait, essayent de se détacher de cette image-là pour vraiment se positionner vraiment comme des créateurs, et des artistes. Donc, c'est vrai que c'est un peu...
Ces dernières années, il y a eu beaucoup de spectacles de danse qui ont été inspirés par le sport. Il y a Box, par exemple, qui était un spectacle génial de Mourad Merzouki. On avait trouvé ça extraordinaire. Il y a aussi Footballeuse de Michel Philippot. Et vous, Angelin, vous aviez consacré un spectacle au haka des rugbymen néo-zélandais, cette danse rituelle guerrière, uniquement portée par des femmes. Un spectacle très beau, très sensuel. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec cette mise en scène du haka néo-zélandais?
C'est un contexte un peu particulier.
Alors,
c'était quand il y a eu les championnats du monde de rugby, et donc il y avait les équipes, certaines équipes s'entraînaient à Marseille, dont l'équipe des All Blacks qui était à Marseille, et ils avaient une sorte de programme culturel, et dans leur programme ils étaient invités au pavillon noir chez nous à voir un spectacle de danse.
Aix-en-Provence.
Voilà, Aix-en-Provence. Quand j'ai appris ça, je me suis dit ça serait bien que je leur fasse un petit truc de bienvenue, un clin d'œil. Et j'ai imaginé un haka avec les 15 filles de ma compagnie. J'ai inventé un haka un peu imaginaire, mais très inspiré justement de la gestuelle
et très
tribale.
Avec des femmes en talons, tout en
noir. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ce. Et puis, les filles étaient incroyables, comme des guerrières.
J'encourage tout le monde à aller voir sur YouTube. Ça dure 6 minutes 39.
Oui, c'est très
beau. Et c'est un spectacle à voir sur l'écran ordinateur qui est sublime. Ouais. Franchement, qui est magnifique.
Enfin, voilà, en tout cas, les All Blacks sont venus. Ils étaient estomaqués. Et après, ils sont allés voir les filles en disant que, ils étaient extrêmement dithyrambiques sur leur performance, sur ce qu'elles avaient fait, sur leur énergie. Et c'était un très, très beau moment de rencontre avec ces sportifs de très, très haut niveau aussi.
Florence Plattaré, tu m'as souvent parlé de ta passion pour la danse. Et puisqu'on parle de compétition sportive, tu m'as aussi raconté une fois qu'en fait, cette passion venait aussi peut-être de ton enfance. Quand tu regardais la télévision avec tes grands-parents, si on parle de compétition et de danse, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Florence?
Oui, puisqu'on parlait de la danse, la danse est déjà une compétition. Il y a des mondiaux de danse sportive, donc des danses de salon, des danses de couple. Et moi, j'ai une grand-mère qui a été une danseuse toute sa vie, amateur, et qui formait avec mon grand-père un couple de danseurs extraordinaires, mais des danseurs du dimanche. Et en fait, avec elle, j'ai regardé ces compétitions qui, moi, me semblaient... c'est pas forcément la danse que j'aime regarder, qui est assez excessive, très sensuelle, très exagérée, très théâtrale. Qui me parle pas forcément, mais avec elle, c'était particulier parce que elle est une grande danseuse. Et donc elle décryptait ça pour moi avec son regard, et donc je comprenais un peu mieux la difficulté d'un passo doble ou d'un tango, et surtout en situation de compétition avec d'autres couples qui tournent autour de vous. Donc c'est peut-être qu'il y a aussi un peu de ça dans mon amour pour la danse.
Dans la passion pour la danse de Florence Plateret. Là, on parle de compétition. Je reviens à ce que vous disiez, Angelin. Il y a aussi des compétitions pour la danse scénique. Il y avait des concours, par exemple, Bagnolet, que vous avez remporté un prix en 85, Marché Noir. Là, vous étiez en compétition, vous avez gagné
vous
contre
avez vu
d'autres.
Le titre que j'ai donné.
Oui, Marché Noir.
Et c'était vraiment intentionnel, c'est-à-dire que c'était une façon de dire, en fait, vous me proposez un marché noir, là. C'est-à-dire que vous... Alors, il y avait des règles,
compris,
non, mais
j'ai
c'était
compris.
Incroyable.
J'ai
il y avait des règles, il fallait
Racontez-nous
pas...
Racontez-nous un peu, c'était quoi, Bagnolet?
Non, alors,
quoi
Bagnolet, c'était le grand concours de chorégraphie dans les années 80, et là, de là sont sortis les plus grands chorégraphes des années 80 et qui sont encore là aujourd'hui. Et donc, il y avait des règles très précises. Or, pour la création et pour l'art, je trouvais ça tellement bizarre d'être confronté à ce règlement. C'est-à-dire, on doit faire pas moins de trois danseurs, pas plus de 10 danseurs, une durée donnée entre 7 et 10 minutes. Voilà, enfin, il fallait faire aussi avec un jeu de lumière qui était déjà là. Enfin, il y avait des tas de règles. Voilà.
Des règles quasiment sportives.
Et je me suis dit, voilà, eh ben, on me propose un marché noir, je vais faire un marché noir, je vais faire un ballet. Voilà, ça s'appelle marché noir.
Mais vous avez gagné.
Ben oui, parce que j'ai fait une machine pour gagner. Voilà, j'ai fabriqué un ballet pour gagner le concours de Bagnolet. Puisqu'on me jouait
c'est
à ça.
C'est le compétiteur qui
est Bah oui, si on joue à ça, alors jouons. Alors voilà. Et j'ai fait quelque chose dont je pensais que ça pouvait gagner. Mm-hmm. Et puis voilà,
Et
ça
donc
a gagné.
Vous avez gagné en 85.
Voilà. Oui. Mais ça, c'était vraiment une sorte de pirouette presque. Mm-hmm. Après, les ballets que j'ai fait après, évidemment, vu qu'il n'y avait pas de règles et que tout était ouvert, là, je me suis livré. Je veux dire... corps et âme, et voilà, et comme voilà.
Il y a un autre concours en Bulgarie, Varna, c'est bien ça? Ça, c'est
oui,
encore différent.
Alors ça, c'est un concours.
Mais là, il y a des médailles d'or, de bronze, d'argent, c'est presque olympique.
Oui, mais là, c'est un concours plutôt d'interprète pour la danse
danseur.
Classique.
Baryshnikov a eu la médaille d'or, Patrick Dupont aussi, par exemple. Mais là, ça fait très sport, finalement. Hein.
Oui,
c'est
mais alors, je pense qu'on peut plus juger, parce que, par exemple, ils dansent tous la même variation, plus ou moins, donc ils ont exactement le même... voilà. Donc, ils font les mêmes mouvements, et puis on dit, lui, il le fait mieux que l'autre. Bon, après, c'est toujours, évidemment, subjectif.
Oui.
Hein.
C'est comme le patinage artistique.
Voilà, on pourrait dire à peu près
c'est
ça.
C'est la même chose.
Hein,
la technique, plus, l'artistique.
Voilà, sans vouloir minimiser ni l'un ni l'autre, mais on peut, voilà, en tout bien, tout honneur, ça peut faire attention à ce qu'on dit sur France Inter.
Oui, c'est vrai. Attention. En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. Je précise que vous pouvez donc voir et revoir en replay sur France 5 Danser l'Invisible, le film de Florence Plateret consacré à l'univers d'Angelin Préjocage, film qui repasse sur France 5 dimanche matin à 9h25, c'est bien ça, Florence. Et puis, par ailleurs, vous pouvez voir Gravité en décembre prochain à l'Opéra Royal de Versailles, me semble-t-il. Mais vous pouvez aussi voir cette semaine au 104 un spectacle d'Angelin Préjocage. Hein, c'est bien ça.
Still Life,
voilà.
Ghost.
Et très bien. Et donc, ce soir, nous sommes donc tous convaincus que Angelin doit prendre en charge la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
C'est dit.
La candidature est lancée. Nous soutiendrons cette candidature d'Angelin Préjocage. Merci à vous deux. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir?
Eh bien un big up à Sadaf Radem.
Ah oui.
Sadaf Radem, 24 ans, officiellement professeur de fitness à Téhéran, boxeuse et surtout première iranienne de l'histoire à avoir disputé et remporté un match officiel de boxe anglaise, c'était hier soir à Royan, en Charente-Maritime. Donc son adversaire française, Anne Chauvin, n'a pas démérité, mais Sadaf Radem s'est vu décerner la victoire vraiment à l'unanimité, sous les yeux émus de son coach, qui n'est autre que la star franco-iranienne Mayar Monshipour.
Et
voilà,
oui.
On se souvient, ancien champion du monde de boxe anglaise. Donc je dédie cette victoire à tous les hommes et femmes qui ont donné leur vie pour défendre la paix. Les femmes doivent être fortes, elles peuvent franchir les montagnes si elles le veulent. Voilà ce qu'a déclaré Sadaf Radem à la suite de sa victoire. Quoi d'autre? Big up, Colin, non?
Big up, Sadaf Radem, donc symbole de l'émancipation de la femme iranienne, bravo à elle. Et puis, quelqu'un qu'on ne félicite pas maintenant, c'est bien
non,
ça?
Non, c'est ça. La boulette.
Oui, la grosse boulette.
La boulette. Alors, en général, on va l'appeler la boulette des Coupes du Monde, ou la boulette au moins des compétitions sportives internationales. Mais là, on a une boulette bien de chez nous, pourtant, venue tout droit du sud de la France, de Marseille pour être précise. Alors, sympa, pour fêter le 29e anniversaire du défenseur de l'Olympique de Marseille, Hiroki Sakai, le community manager, donc pour France Inter, celui qui anime les réseaux sociaux, le CM du club a décidé de réaliser une petite création en l'honneur de son joueur japonais. Problème, à la place du drapeau japonais, le CM du club olympien a posté celui de l'armée impériale japonaise. Voilà, drapeau utilisé de 1867 à 1945, soit pendant les guerres sino-japonaises ainsi que pendant les guerres mondiales. En gros, c'est un petit peu comme s'il avait utilisé le drapeau nazi à la place du drapeau allemand, hein, pas du meilleur goût, voilà. Alors rassurez-vous, les internautes ont vite signalé l'erreur et le drapeau a été remplacé.
Moi j'ajoute rien, j'étais consterné. Oh. La suite, Joy.
Un scoop, Colin.
Eh oui.
Attention, hein. Une info dont personne n'a encore parlé. Un truc de dingue. Mm-hmm. Ce soir, ce sera le début de la 8e et dernière saison de la série Game of Thrones. Personne n'avait rien dit. Et moi, je suis au top de l'info, comme d'hab. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que oui, votre marathon télévisé, petit jeu de mots, peut commencer, mais surtout parce que l'un des comédiens de la série a révélé ce qui allait se passer. Mais se passer sur les terrains de foot. En fait, il était invité de Jimmy Kimmel sur la chaîne américaine ABC et il s'agit de l'acteur danois Nikolaj Coster-Waldau. Nikolaj Coster-Waldau a donné quelques indices sur cette nouvelle saison.
Il joue Jamie Lannister, hein, c'est bien.
J'allais
ça.
J'allais le dire, c'est la suite de la chronique.
Pardon.
Excuse-moi. Sinon, on peut la faire dans le sens inverse.
Excuse-moi. Allons-y, voilà. On continue.
Non, c'est Jamie Lannister. Mm-hmm. Il spoile tout. Il spoile tout à tout le monde. Donc, Nikolaj Coster-Waldau, alias Jamie Lannister, est sur le plateau de Jimmy Kimmel et il annonce un petit peu ce qui va se passer dans la saison. Et là, il dit ça. Il dit « Il est une théorie où tout le monde pense qu'un élu viendra et apportera toutes les solutions. » Tout le monde pense à Jon Snow, évidemment. Mais en réalité, nous devons prêter attention à un gars nommé Bielsa. Il arrive dans le Nord et transforme tout, comme par magie, en un paradis. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, grand fan de football et du club de Leeds United, donc celui qui est Jamie Lannister hein, dans la série Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau, il faisait allusion, cet acteur, à l'ascension possible en première ligue du club de Leeds, qui est un club situé dans le nord de l'Angleterre, un club qui est coaché depuis le début de l'année par Marcelo Bielsa et qui est bien placé, effectivement, pour la montée, puisqu'ils sont deuxième, je crois, en ce moment. Donc, devant des Américains un peu perdu hein, dans le classement du soccer anglais. Coster-Waldau a terminé son interview plutôt géniale quand on connaît le foot par un « In Bielsa we trust ». J'adore.
Oui, peut-être que Leeds is coming en première ligue. Et je vous rappelle qu'Inter consacre toute sa nuit au retour de Gott. Ce sera tout à l'heure à partir de minuit. Mais pour l'instant, on part aux Pays-Bas, c'est bien ça?
Yep. Mm-hmm. L'an prochain, sur les terrains de foot des Pays-Bas, le peintre Rembrandt sera à l'honneur.
C'est mieux.
Oui, bon, petite lésion comme ça. Pour célébrer l'année de Rembrandt, le peintre a disparu il y a 350 ans. Le fabricant du ballon, en fait, du championnat néerlandais Derby Star, a dévoilé cette semaine le Rembrandt Ball, donc le Rembrandt Ball, sur la balle de foot, on peut voir du coup des gravures de l'artiste, des moulins à vent, ainsi qu'une représentation de Rembrandt lui-même. Donc foot et culture, tout ce qu'on aime, on hésiterait presque à taper dedans, hein, dans ce ballon, vraiment tellement c'est joli.
Et pour finir, je vais te conseiller culturel du jour.
Eh bien, j'ai commencé cette chronique en vous parlant de la boxeuse iranienne Salah Fradem. Je vais la conclure en vous conseillant de lire l'autobiographie de la boxeuse française, cette fois, Sarah Ouramoun, première femme de l'Hexagone à avoir été licenciée dans un club de boxe. Je ne le savais pas. Ce livre s'appelle « Mes combats de femmes », donc de Sarah Ouramoun. Ça vient de paraître chez Robert Laffont. Alors, je conseille honnêtement rarement des biographies de sportifs, hein, parce qu'il y en a quand même une pelletée qui sortent et elles ne sont pas toutes de grande qualité. Mais là, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que Sarah Ouramoun, c'est un manifeste pour la vie. De son enfance, vraiment dans un studio miteux de Clichy, à son titre de championne du monde, elle a aussi été vice-championne olympique à Rio, faut s'en rappeler. Sarah Ouramoun, elle a intégré Sciences Po, elle a monté sa boîte de coaching et elle s'est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle défend les questions d'égalité, de mixité en Seine-Saint-Denis. C'est une star du ring, du noble art et des combats difficiles. Sarah Ouramoun, c'est vraiment un destin incroyable qui est toujours au service du sport, au service des femmes. C'est une héroïne moderne et il faut la lire maintenant.
Que vous retrouverez donc dans Mes combats de femmes de Sarah Ouramoun. On va l'inviter, ça, Ouramoun. Aux éditions Robert Laffont. Merci, Joy, à la semaine prochaine.
Bye.
Salut. Et voilà, cette 33e émission, notre saison 4 a été coachée ce soir par l'incontournable H2M Henri Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Léo Prangère. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scud et à Loïc Solnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Twitter avec les comptes L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire du football dans le monde arabe. Oui, à l'occasion d'une très alléchante exposition à l'Institut du Monde Arabe et que vous pourrez aller voir jusqu'au 21 juillet. Passez une excellente soirée et une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans l'Œil du Tigre à 18h sur Inter, bien sûr. Salut et fraternité.